Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, nous allons nous attarder sur l'élection présidentielle américaine aujourd'hui et nous intéresser en particulier à Donald Trump avec notre invité Laure Mandeville. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique, en Guinée, en Mauritanie ou bien encore au Gabon. Rendez-vous également avec vos messages. Continuez notamment à nous dire depuis quand vous écoutez cette émission. Cela nous intéresse beaucoup. Samedi 1er octobre, une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité.
RFI.
Bonjour Laure Mandeville.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro pour nous éclairer sur la personnalité de ce si étrange et si controversé, en tout cas, Monsieur Trump. Vous venez d'écrire « Qui est vraiment Donald Trump ?», un livre publié aux éditions des Équateurs, excellente maison d'édition, il faut le préciser. Vous avez été 8 ans durant correspondante aux États-Unis pour le Figaro. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous aviez été en poste auparavant à Moscou, donc c'est presque la guerre froide version moderne. Qui est vraiment donc Donald Trump? On dit tout et un peu n'importe quoi sur ce personnage, non?
C'est vrai. En fait, c'est un personnage qui a tellement bouleversé tous les codes, qui a tellement indigné, insulté et finalement cassé totalement la baraque à la fois du Parti républicain et dans son ensemble de la politique américaine, qu'il est devenu très difficile de se faire une idée du personnage au-delà de l'hystérie et de la haine véritable qu'il suscite, je dirais, dans l'ensemble de la classe politique américaine. Donc c'est vrai que pour un observateur étranger comme moi, qui essayait de prendre un tout petit peu de hauteur pour essayer de plonger dans la psychologie du personnage et de comprendre aussi l'extraordinaire phénomène qu'il représente pour cette année électorale absolument sans précédent, je dirais exceptionnelle, c'était pas évident, c'était presque une expérience un peu schizophrénique, comme je le raconte dans le livre.
Il y a un professeur de l'université de Georgetown qui s'appelle Joshua Mitchell, qui vous dit d'ailleurs, apprenant que vous faites un livre sur lui, écrire un livre sur Trump pourrait s'avérer une entreprise aussi difficile que tirer sur une cible en mouvement.
Exactement. Et c'est pour ça que je préviens à mon lecteur que même si j'ai fait, je pense, pas mal d'efforts, creusé, sillonné le pays à la recherche des électeurs de Trump, interviewé beaucoup de ses proches, de ses amis, de ses ennemis, je suis loin d'apporter toutes les réponses dans ce livre. J'essaie en tout cas de scruter cette réalité, ce phénomène à la fois pittoresque, coloré et incroyablement charismatique, sous tous les angles et avec le plus d'honnêteté possible.
Le danger, Laure Mandeville, serait de le sous-estimer.
Absolument. Moi,
je me souviens de ce qui se disait sur Ronald Reagan il y a longtemps déjà. Oui, ce cow-boy, cet acteur de série B, et finalement, il a été un des plus grands présidents des États-Unis.
Exactement, c'est vrai que sans vouloir absolument trancher sur une comparaison entre Donald Trump et Ronald Reagan, dans la conclusion de mon livre, d'ailleurs, je cite une interview absolument extraordinaire et savoureuse à lire aujourd'hui, tant d'années plus tard, donnée par Norman Mailer, sommité intellectuel de la gauche américaine de l'époque, à propos de Ronald Reagan dans Le Monde. Et dans cette interview, Norman Mailer parle d'une super tête de linotte qui ne comprend rien au phénomène politique, qui est presque incapable de s'exprimer et qui certainement ne comprendra rien aux questions de politique étrangère et qui annonce une ère pré-fasciste en Amérique. Quand on voit maintenant le bilan de l'image qu'a laissé Reagan, c'est vrai qu'il faut, je pense, avoir une certaine modestie et essayer de comprendre quelles sont les forces de Trump au lieu de le prendre soit pour un clown, soit pour un fasciste. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette émission grâce à vous. La guerre et la paix et la guerre. Avant de partir pour les États-Unis, Laure, arrêtons-nous en Colombie pour parler, et c'est exceptionnel, d'une bonne nouvelle, la paix. La paix signée par le gouvernement colombien et la guérilla des FARC à Cartagène lundi. Envoyé spécial, Véronique Guémard.
Lors de la cérémonie de signature des accords de paix, le chef des FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a demandé pardon aux victimes, un geste fort, très attendu par les millions de victimes du conflit. Mais alors qu'il termine son discours en parlant de la fin de la guerre et en citant Gabriel García Márquez, un avion de chasse surgit en rasant le centre de convention.
La guerre est terminée. Nous commençons à construire la paix. L'amour de Mauricio Babilonia pour la Mémé pourra maintenant être éternel.
Podrá ser ahora eterno.
Un bruit strident qui glace le sang des participants. Rodrigo Londoño reprend alors la parole.
Bon, cette fois, il venait saluer la paix et pas larguer des bombes.
Puis le président Juan Manuel Santos commence son discours en rendant hommage aux victimes. Il salue les chefs d'État et les ministres présents et le chef des FARC.
Monsieur Rodrigo Londoño Echeverri, en effet, ces avions étaient un salut à la paix.
La cérémonie retransmise sur toutes les chaînes de télévision en Colombie marque donc la fin de 50 années de guerre entre le gouvernement et la guérilla des FARC qui va se transformer en mouvement politique. Bienvenue en démocratie, lui a souhaité le président colombien.
No más guerra.
Après la paix, la guerre en Syrie et des bombardements particulièrement meurtriers à Alep sur des hôpitaux ces derniers jours. Crimes de guerre, dit l'ONU. Alep, ville martyre pour le pape François. Correspondance régionale de Paul Khalife, mercredi à Beyrouth.
Les derniers hôpitaux encore en service à Alep-Est sont gérés par des ONG étrangères. C'est le cas des deux établissements touchés mercredi à l'aube, qui sont soutenus par la Syrian American Medical Society. Le matériel et les médicaments étaient envoyés des États-Unis via la Turquie et le personnel hospitalier était formé et encadré par cette ONG avant le siège de la ville. Ces hôpitaux ainsi que d'autres infrastructures permettent d'assurer un minimum de services aux 250 000 personnes prises au piège dans la partie est de la ville. En les mettant hors service, le régime veut priver les régions rebelles des facteurs qui les aident à continuer à résister aux pressions militaires. Depuis 8 jours, les raids aériens et les bombardements se poursuivent sans interruption sur les différents secteurs de la ville, y compris des tirs rebelles sur les quartiers ouest sous contrôle des troupes gouvernementales. Ils s'accompagnent de violents combats sur les lignes de démarcation qui coupent Alep en deux. Mais il n'y a pas eu jusqu'à présent une offensive terrestre majeure de l'armée syrienne ou de ses alliés vers la partie orientale. Les soldats gouvernementaux ont juste pris quelques pâtés de maison dans la vieille ville près de la citadelle.
Sept jours dans le monde.
Alors, Mandeville, les États-Unis, maintenant votre pays préféré, peut-être après la Russie ou avant la Russie, je ne sais pas. Et le premier débat télévisé Trump-Clinton, lundi, premier de 3 débats qui vont se succéder. Correspondance d'Anne-Marie Capomaccio.
Ce que l'on peut dire avec certitude, après 1h30 de débat très dense, est qu'Hillary Clinton a choisi hier soir d'adopter une stratégie d'attaque. Jamais le passé de Donald Trump n'avait été ainsi exposé lors d'un débat. Au Donald Trump, homme d'affaires milliardaire qui vante ses succès, la candidate a répondu sur ses faillites multiples. « Qu'avez-vous à cacher aux Américains ? » l'a-t-elle interrogé lorsque le candidat a réitéré son refus de rendre publique sa déclaration de revenus. Hillary Clinton était aussi à l'offensive sur, je cite, « le comportement raciste du candidat Trump » et sur l'inexistence de son plan caché pour venir à bout du terrorisme. Sur les accords commerciaux, au contraire, accords commerciaux soutenus par la candidate au cours de sa carrière, Donald Trump a réussi à la déstabiliser. Mais globalement, hier soir, Hillary Clinton a en permanence empêché Donald Trump de rester sur son message de rendre sa grandeur à l'Amérique. Enfin, aux attaques du candidat sur son manque de résistance, la candidate, avec humour, lui a suggéré de reprendre cette conversation lorsqu'il aura passé 11 heures à répondre à une audition du Congrès.
C'est donc une semaine d'actualité que vous écoutez. Merci, nous sommes en compagnie de Laure Mandeville, journaliste, correspondante, ancienne correspondante, mais c'est récent, du Figaro aux États-Unis, auteur aux éditions des Équateurs de « Qui est vraiment Donald Trump ?». J'ajoute que vous faites partie d'un laboratoire d'idées, on va dire ça comme ça,
oui.
C'est la traduction d'un
think tank
qui s'appelle Atlantic Council. On peut dire deux mots de cette...
Oui, en fait, c'est un think tank très actif sur toutes les questions de politique étrangère et qui notamment s'intéresse énormément à la question de la relation entre les États-Unis et l'Europe, donc qui est aujourd'hui évidemment extrêmement focalisé sur cette campagne électorale et ses conséquences futures.
Vous voulez dire un mot sur l'échec patent des États-Unis avec la poursuite de la guerre en Syrie?
Oui, je crois que c'est véritablement la tragédie que connaît la Syrie depuis 2011 et qui s'exprime à Alep, mais c'est ce qui s'exprime aussi, de mon point de vue, qui a été un observateur dire depuis Washington pendant ces dernières années, c'est l'impuissance absolue des États-Unis dans cette crise et l'humiliation qui est véritablement subie par John Kerry, qui a été le porte-drapeau d'une approche diplomatique dont il nous disait qu'elle allait réussir et qui a plaidé pour cette négociation avec la Russie. Le problème, c'est qu'il a plaidé dans le vide, sans avoir de levier véritable de pression sur la partie russe, alors que les Russes, eux, n'ont cessé de créer des réalités militaires sur le terrain en soutenant leur allié Bachar el-Assad, et donc se sont retrouvés véritablement dans la position de force face aux États-Unis, utilisant finalement cette diplomatie pour continuer d'avancer. Et on a presque l'impression d'un Don Quichotte en John Kerry, d'autant plus que Barack Obama l'a laissé faire, mais sans véritablement lui apporter, je dirais, un soutien en première ligne, qui est normalement celle d'un président. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression que le président, ayant décidé depuis le début qu'il n'y aurait pas de véritable intervention militaire au sol sur place, qu'il n'y aurait pas, pour lui, ça voulait dire qu'il n'y aurait pas de vraie option militaire. Et donc, évidemment, depuis le début, le jeu était biaisé. C'est très triste.
Alors, on va reparler tout à l'heure de la politique étrangère de Donald Trump. S'il y a une politique établie déjà, Laure Mandeville, je voudrais qu'on vienne sur le débat que vous avez évidemment suivi avec attention. Je sais que vous en avez parlé, vous l'avez commenté. Un débat présenté en général comme une défaite pour Donald Trump. C'est votre avis ?
Alors, écoutez...
Je précise et je répète qu'il y a trois débats au total. Hein. Oui, c'était le premier
tout à
de trois
fait.
Débats.
Je pense quand même qu'effectivement, à la lumière des vrais sondages qui viennent sortir, il est plutôt perdant dans ce débat. Mais c'est vrai que la question, c'est est-ce que cela change le rapport de force ? Au fond, quelles conclusions vont en tirer les gens qui s'apprêtent à voter pour lui ou qui hésitaient à voter pour lui ? Est-ce qu'ils auront pensé que ce qui s'est passé est rédhibitoire ? Sur cette question-là, je serais plus prudente que ne l'ont été pas mal d'observateurs qui pensent que c'est une défaite en race campagne et qu'il y a eu même pas mal de gens qui pensaient que l'élection était déjà quasi gagnée. C'est vrai que la campagne Clinton a aussi utilisé en fait l'avantage qu'elle avait pris en étant offensive pour dire, bon, je crois qu'elle a dit allez, un de fait, il n'y en a plus que deux. En gros, quand j'aurai plié mes deux débats, ça y est, je serai presque aux portes de la Maison Blanche. Je pense qu'il faut rester assez prudent. En même temps, ce qui est très intéressant dans les derniers jours, c'est que toute la classe intellectuelle et politique, en fait, toutes les élites sont en train de se mettre en ordre de bataille pour vraiment faire barrage à Trump. Il y a eu même plusieurs journaux républicains qui, dans les États, comme par exemple en Arizona, ont pris position contre Trump. J'ai vu que USA Today
aussi,
avait pris position alors qu'ils avaient des gens qui étaient, sur certains sujets, pas du tout alignés avec la presse libérale. Donc, véritablement, où ils disent, on n'est pas nécessairement pour Hillary Clinton, mais on ne veut pas de Trump. Donc ça, c'est quand même des éléments qui vont faire réfléchir les gens. Et toute la question, c'est est-ce que leur colère sera plus forte que leur peur de l'imprévisible que représente Donald Trump ?
Et la question de savoir si c'est les Américains, ça ne va pas avoir l'effet contraire, en fait, auprès des Américains qui veulent voter Trump, en disant, vous voyez, les élites sont toutes contre nous, donc
exactement.
Il faut vraiment voter
Trump.
Exactement.
Il y a toujours, comment dire, c'est une épée à double tranchant. Le soutien des élites et le soutien des médias, la question, c'est... ça aide Clinton, mais jusqu'à quel point ça la dessert aussi. Et vice versa pour Trump.
Une semaine d'actualité.
Laure Mandeville, la semaine a aussi été marquée par la disparition d'une grande figure en Israël, Shimon Peres, ancien président et premier ministre du pays, Tufik Ben Aïchouch.
Shimon Peres est né à Vishneva en Pologne à l'époque, aujourd'hui en Biélorussie en 1923. Et il finira par être président de l'État d'Israël. Il se nomme à l'époque Shimon Persky et changera son nom en Peres, qui signifie « l'orfraie » en hébreu. Il arrive en Palestine en 1934, vit dans un kibboutz et se fait remarquer très jeune par Ben Gourion, le père fondateur de l'État d'Israël. C'est lui qui dotera l'État d'Israël de la bombe atomique. En 1956, à Paris, Shimon Peres convainc le ministre des armées françaises, Bourgeles Monory, et Guy Mollet, le président du Conseil, de fournir la bombe atomique au petit État. Mais le faucon sait aussi se transformer en colombe. Il signera les accords d'Oslo pour l'établissement d'un État palestinien en 1993, avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. En revanche, il n'a jamais gagné une seule élection. Il deviendra d'ailleurs président d'Israël en remplaçant Moshe Katsav, contraint à la démission en 2007. L'autre ombre au tableau, c'est l'opération Raisin de la colère. En 96, Israël est en guerre contre le Hezbollah libanais. Shimon Peres est premier ministre par intérim et l'aviation israélienne bombarde un camp de civils, un camp des Nations Unies à Kanaa, au sud Liban. 116 civils mourront ce jour-là, carbonisés par les bombes.
Les obsèques de Shimon Peres ont eu lieu hier, vendredi. Les États-Unis, on y revient pour parler cette fois de la décision de Barack Obama, une de ses dernières donc, de renforcer la présence militaire américaine en Irak. Retrouvons à Washington Anne-Marie Capobaccio.
Avec ce renfort de 615 conseillers, le dispositif américain en Irak sera porté à 5000 hommes. L'objectif est d'intensifier les préparatifs pour la bataille de Mossoul, explique le porte-parole de la Maison-Blanche. Le président Obama a donné son accord sur proposition du ministre de la Défense Ashton Carter. Ces hommes auront pour mission de renseigner, de porter assistance, d'aider les troupes irakiennes et les Peshmerga kurdes dans cette bataille décisive. Ce renfort répond à une requête du premier ministre Abadi, ajoute le Pentagone. Ces troupes n'ont pas vocation à rester sur place une fois leur mission achevée. La ville de Mossoul est tenue par les terroristes de l'État islamique depuis 2 ans. C'est un bastion que les forces locales ont l'intention de reprendre avec le concours de la coalition. Aucun délai n'est donné par les militaires, même si Barack Obama reconnaissait voilà quelques jours que l'offensive pourrait être lancée rapidement. Une victoire sur les terroristes mise au crédit de la Maison-Blanche serait une bonne nouvelle pour les démocrates dans la campagne présidentielle américaine.
Alors la question s'impose d'elle-même. Laure, sait-on exactement ce que veut Donald Trump? Quelle est sa politique étrangère s'il est élu? On le présente comme quelqu'un d'isolationniste, qui ne veut pas engager l'armée américaine, mais il y a un principe de réalité.
Exactement. Je pense qu'il serait extrêmement présomptueux de faire des pronostics sur ce que serait la politique étrangère de Donald Trump. Donald Trump, moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il a des instincts de politique étrangère. Et ces instincts de politique étrangère, qui sont loin d'être une théorie construite sur ou un programme construit sur ce qui serait son action, c'est d'abord effectivement l'idée que l'Amérique doit cesser d'être le gendarme omniprésent du monde, qu'elle n'en a plus les moyens et que non seulement elle n'en a plus les moyens, et donc que les alliés doivent payer leur part de ce fardeau gigantesque, mais aussi qu'elle n'est pas nécessairement efficace en étant ce gendarme, qu'elle peut en réalité déstabiliser des régions et nuire au lieu de faire du bien. Donc chez lui, il y a une espèce de principe de précaution, mais il faut dire que de ce point de vue-là, il n'est pas du tout en rupture avec l'administration précédente. Il est au contraire dans le prolongement de Barack Obama, qui a été un homme de retrait, de repli de la politique étrangère.
Donc républicain, mais pas néo-conservateur. D'ailleurs, on dit qu'Hillary Clinton est sans doute plus de néo-conservatrice, si je puis dire, que lui. On parle aussi beaucoup de ses rapports avec la Russie, pays que vous connaissez bien, et de son estime pour Vladimir Poutine.
Exactement. Et ça, en fait, c'est le principe, l'autre instinct de Donald Trump, qui pourrait se révéler d'une immense naïveté, c'est ce que lui appelle le principe du réalisme. C'est-à-dire qu'on doit parler avec nos ennemis et on doit essayer de s'entendre avec eux au lieu de se lancer dans des conflits ou des confrontations que nous ne sommes pas capables de gagner. Et donc, depuis le début de sa campagne, il n'a cessé notamment de faire allusion à cette formidable potentielle relation qu'il pourrait avoir avec Vladimir Poutine, dont il ne cache pas qu'il admire ce qu'il pense être la capacité de Poutine à avoir remis de l'ordre chez lui et avoir redonné une stature internationale à son pays. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ordre dans la Russie de Poutine et que, de ce point de vue-là, M. Trump est très, très mal informé, et aussi que la grande question en fait que tout le monde se pose, c'est que serait prêt à finalement céder Trump pour s'entendre avec le Kremlin. Est-ce qu'il serait prêt, et c'est là, je pense, une des grandes inconnues et des gros dangers que recèle l'éventualité d'une arrivée de Trump au pouvoir, c'est est-ce que cet homme qui veut absolument conclure les bons accords, les bons deals, comme il dit, et montrer qu'il est un génial négociateur, ne serait pas prêt, par exemple, à sacrifier l'indépendance de certains de ses alliés, je pense par exemple à l'Europe de l'Est, s'il s'avérait que Vladimir Poutine proposer un deal, je ne sais pas moi, à paix en Syrie contre domination de l'ex-Europe de l'Est, par exemple.
Laure Mandeville, nous allons faire une pause, continuer à parler de Donald Trump et nous retrouver dans quelques 3 minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures À tout de suite donc.
En sol.
Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction et notre invité Laure Mondeville avec laquelle nous parlons de Donald Trump.
Une semaine d'actualité.
Nous partirons pour l'Afrique dans quelques instants, mais pour le moment, parlons de la France et l'annonce par François Hollande à Calais lundi du démantèlement du camp de réfugiés de la ville. On ne peut s'empêcher de penser à la campagne présidentielle, Anissa Al-Jabri.
Le président n'a que des coups à prendre. Avec cette visite, c'était la crainte de certains proches de François Hollande. Sous le grand chapiteau blanc dressé pour l'occasion dans le vent glacial du port de Calais, la première à dégainer, Natacha Bouchard, pour la très sarkozyste maire de la ville, démanteler la lande de Calais, c'est largement insuffisant.
Quelles sont les décisions pour nous donner la garantie que le scénario que nous vivons aujourd'hui ne se reproduise pas dans quelques mois ? Quelles sont les mesures pour tarir le flux des clandestins ?
Duel entre deux présidents par proche interposé, concurrence acharnée pour la primaire à droite. Xavier Bertrand réserve son choix, mais le président de la région, en creux, n'est pas tendre pour la stratégie de Nicolas Sarkozy.
Quand ce démantèlement aura lieu, je n'hésiterai pas, publiquement, à reconnaître le travail qui aura été fait. Il y a des moments où il faut savoir où se situe l'intérêt général et que, quelles que soient les échéances électorales qui se dessinent, on ne trouvera les solutions qu'ensemble.
Rendez-vous est pris, c'est la première fois que François Hollande venait à Calais en président. Ce ne sera pas la dernière.
Pour qu'il n'y ait pas de doute sur nos intentions et sur notre volonté, je reviendrai avec le gouvernement après le démantèlement complet et entier.
Après des années de quasi-silence, François Hollande vient de se saisir du thème de l'immigration et n'entend plus le lâcher.
Un ancien grand flic mis en examen, il s'appelle Bernard Squarcini. Marina Melzarek nous a tout expliqué jeudi.
Trafic d'influence. L'ancien patron du renseignement intérieur est soupçonné d'avoir demandé et utilisé des informations confidentielles d'anciens collègues et amis policiers pour son nouveau métier, conseiller en sécurité privée. Bernard Squarcini, ancien grand fonctionnaire de France et proche de l'ex-président Nicolas Sarkozy, avait été écarté de ses fonctions en 2012 à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Juste après cette éviction, il avait fondé sa société Kyrnos. Les avocats de Bernard Squarcini minimisent la gravité de cette mise en examen. Ils s'y attendaient. Leur client faisait l'objet d'une enquête resserrée depuis le printemps dernier. Au mois d'avril, des documents concernant les démarches commerciales et financières de l'entreprise de luxe Hermès avaient été retrouvés à son domicile. Hermès est un concurrent direct d'un très bon client de Bernard Squarcini, le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH, en procès avec Hermès il y a 2 ans. Avant cette mise en examen, Bernard Squarcini a passé 2 nuits en garde à vue, au même titre que d'anciens collègues de la police judiciaire entendus dans cette affaire. Leurs interrogatoires sont sans aucun doute liés à la décision de justice. Une justice qui connaît déjà Bernard Squarcini, condamné il y a 2 ans pour avoir espionné un reporter d'investigation du journal français Le Monde.
Du nouveau dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, campagne de 2007, Abla Jounaïdi.
En 2012, le site Mediapart révélait la fameuse note libyenne, un document authentifié par la justice française par laquelle le clan Kadhafi donnait son accord pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'entourage de l'ancien président n'a eu de cesse d'en contester l'authenticité. Désormais, les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasky révèlent l'existence d'un carnet ayant appartenu à l'ancien ministre libyen du pétrole, Shukri Ghanem. Ce dernier, entre-temps, est mort dans des circonstances troubles à Vienne, en Autriche. Mais le carnet en question a été retrouvé par des juges chez son gendre aux Pays-Bas, dans le cadre d'une vaste affaire de corruption impliquant l'ancien ministre libyen et le géant pétrolier norvégien Yara. D'après Mediapart, le carnet relate le détail d'une réunion entre le ministre et 2 autres dignitaires libyens, à l'issue de laquelle sont consignés 3 versements pour un total de 6,5 millions d'euros au profit de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Le carnet se trouve désormais entre les mains des juges français qui enquêtent depuis 2013 sur un financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par le régime de Muammar Kadhafi.
Suite d'une semaine d'actualité, là nous allons reparler des États-Unis, mais je voudrais quand même qu'on prenne conscience que la France n'a pas l'exclusivité des affaires nauséabondes, non ?
Ben absolument, je crois que d'ailleurs ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'histoires de corruption aux États-Unis, et ce qui m'a beaucoup frappé dans cette campagne, c'est que le mot de corruption politique a été extrêmement présent pendant les primaires, à la fois chez Trump, qui lui a promis de mettre fin à tout ce système d'intérêts spéciaux en disant moi, de toute façon, je les connais par cœur parce que comme homme d'affaires, j'ai participé à la corruption de ce système, donc je sais exactement comment ça marche. Et de l'autre côté, il y avait Bernie Sanders qui a eu cette extraordinaire popularité dans la primaire démocrate face à Hillary Clinton.
Notamment chez les jeunes.
Notamment chez les jeunes qui ont du mal à se laisser convaincre par Hillary aujourd'hui et qui lui disait qu'il fallait une révolution politique pour mettre fin à ce système de corruption.
Alors Laure Mandeville, je voudrais qu'on s'intéresse à la personnalité de ce monsieur Trump. Il y a des légendes qui courent autour de lui, autour de son empire. Un des grands mérites de votre livre, c'est d'aller au-delà de ces légendes. C'est pas quelqu'un qui est né pauvre, c'est pas quelqu'un qui s'est fait tout seul.
Non, pas du tout. C'est vrai que il est d'une famille d'aventuriers. Son grand-père était arrivé comme immigrant d'Allemagne et était allé créer des restaurants qui servaient d'ailleurs d'hôtels de passe pour les chercheurs d'or en Alaska et dans le Klondike au Canada. Mais c'est vrai que son père, en réalité, est l'homme qui a fait son premier, disons, sorte d'un petit empire de l'immobilier en construisant des immeubles à Brooklyn notamment.
Donc il est né à Brooklyn.
Pour les classes moyennes, il est né exactement et il a grandi dans le Queens. Et c'est très important pour comprendre la personnalité de Donald Trump parce que Donald Trump est né effectivement dans la soie d'une certaine manière. Il vivait dans une grande maison à colonnade avec je ne sais plus combien, si c'était 18 chambres et son père était multimillionnaire. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que son père l'a élevé à la dure, le forçant à travailler et donc à distribuer les journaux dans les rues. Mais en même temps, pour vous montrer que c'était aussi un fils de millionnaire, quand il neigeait, il lui prêtait sa Cadillac pour aller déposer les journaux.
Ça dépanne.
Et il lui disait, ça dépannait, voilà. Et il lui disait, mon fils, tu es un roi. C'est intéressant, mais en même temps, Donald Trump, je pense, n'a jamais eu le sentiment qu'il faisait partie de l'élite de Manhattan. Et en fait, je crois que cette élite même l'a profondément rejeté comme un parvenu, un arriviste, parce que c'est un homme, au fond, aux mauvaises manières. Son père était un homme qui s'est fait à la force du poignet, qui était beaucoup plus à l'aise sur les chantiers de construction des immeubles qu'il construisait. Il emmenait toujours son fils. Et Donald, en fait, quand il avait 5, 6, 10, 15, 18 ans, allait avec son père récupérer les loyers. Et donc, il parle comme ces ouvriers de construction, et moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, les gens qui l'aiment disent « Oui, Donald est milliardaire, mais c'est un milliardaire du peuple, parce qu'il parle comme nous, il pense comme nous, il est comme nous. »
Alors très rapidement, il faut préciser aussi ce que vous faites dans le livre, très bien, Laure, c'est que c'est un sale gosse, quoi. Très jeune, il était déjà insupportable.
Oui, c'est un sale gosse et il est indomptable en réalité. Quand il est tout petit, à l'école élémentaire, il balance des gommes sur ses professeurs, il tire les chevaux des filles, il organise des concours pour pousser les chaises dans l'intérieur de la classe. Et le coin, le piquet, porte même ses initiales DT.
Consécration.
Voilà. Donc, et puis ça continue. Après, il part, il fait tellement de bêtises que son père, qui veut le dresser, l'envoie tout d'un coup, sans préavis, à l'âge de 13 ans, à l'académie militaire qui se trouve sur la rivière Hudson, un peu plus haut, non loin de New York. Et c'est un endroit extrêmement dur. Moi, j'ai rencontré plusieurs anciens élèves qui avaient fait leurs études là-bas avec lui et qui disent qu'ils ont été traumatisés, bizutés, mais que Donald, au contraire, lui, il les avait défendus parce que sa très forte personnalité faisait qu'il s'était finalement fait à cette discipline et que le mentor qu'il avait, qui était un homme apparemment extrêmement dur, un ancien militaire, ne l'a pas véritablement traumatisé.
C'est très important de savoir ça, c'est loin d'être anecdotique, Laure Mandeville, parce que vous le citez aussi, il a dit un moment, moi, les chefs d'État ne vont pas m'impressionner, j'ai eu quand j'ai bâti mon empire immobilier, j'ai eu l'habitude de discuter avec la mafia, des durs. C'est important aussi pour comprendre le personnage qu'il pourrait être en tant que président.
Exactement, je crois que vraiment, c'est le personnage d'un monde de requins qui est le monde du business. Ouais. De l'immobilier, de la construction à New York.
Dans ce secteur qu'il a fait sa fortune.
Exactement.
Qu'il a construit sa fameuse tour au cœur de New York.
Absolument. Donc, il y a vraiment tout un monde tout autour des réseaux un peu, je dirais, occultes. Quand on a des problèmes, évidemment, pour la construction des immeubles, il y a souvent des zones un peu grises où il y a des personnages sulfureux. Et c'est vrai que je raconte aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui ont aidé Trump à faire son chemin dans cette jungle. En dehors de son père, et notamment un avocat qui s'appelait Roy Cohn, qui est un personnage véritablement romanesque, dont un des journalistes qui a bien connu Trump disait que quand on déjeunait avec lui, on avait l'impression de déjeuner avec le diable, Satan.
Il fallait une longue cuillère, sans doute, pour reprendre la vieille image. Et ça, c'est vraiment très important pour le comprendre, tout comme il faut savoir ce que vous faites aussi, ce que vous démontez, c'est qu'il a bâti une légende autour de son empire.
Exactement.
C'est un homme qui sait se fabriquer une légende, en fait.
Tout à fait. Je crois que ce qui aussi caractérise et a fait l'immense succès de Donald Trump, c'est qu'il a su autant construire ces immeubles, et je crois que c'est des ouvrages de très grande qualité, mais il a su aussi faire savoir qui il était, et il a mis son nom en grosses lettres sur tous les immeubles qu'il construisait, sur les golfs, sur la patinoire qui est à Central Park, et tout ça, évidemment, a fait que c'est devenu presque mythique, le nom de Trump, et que toute l'Amérique connaissait déjà Trump. C'était un homme extrêmement connu, qui a écrit des livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, et notamment L'Art du Deal, son fameux bouquin dans lequel il raconte comment on fait son succès. Et il a après été le créateur d'une émission de télé-réalité dont il était aussi le héros, ce sorte de père, de dieu tranchant entre les bons et les méchants qui faisait partie de son émission. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a créé une phrase qui est devenue connue, par laquelle se terminaient toutes les émissions. C'était « Vous êtes choisi ou vous êtes viré ». Et donc « Vous êtes viré », c'est devenu une phrase que tous les Américains connaissent. Et elle montre, en fait, elle est importante dans cette campagne parce que Trump dit aux Américains « Moi, je fonctionne selon un principe de réalité. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Moi, je veux vous faire gagner, mais ne vous faites pas d'illusions, il y a des perdants. Donc, il vaut mieux que vous soyez du côté des gagnants. » Et c'est la même chose en politique étrangère. Il leur dit, en gros, nous ne serons pas capables de réconcilier l'Amérique avec tout le monde. Obama a échoué. Ce que je ferai, ce que je vous promets de faire, c'est de tout faire pour vous protéger et vous défendre. Donc, il essaie d'activer l'idée du principe de réalité chez les Américains. Et je pense qu'on est dans un moment où cela marche bien parce que, justement, les Américains ont vu le rêve d'Obama brisé. Ils ont eu le sentiment que quelqu'un d'aussi, charismatique et rassembleur et attrayant qu'était Obama n'a finalement, par sa douceur et sa diplomatie, pas réussi à défendre les intérêts du pays.
On ne peut pas comprendre Trump sans penser à Obama.
Exactement. Hein, je crois que d'une certaine manière, Trump est l'enfant des 8 années d'Obama.
Une semaine d'actualité.
Laure, nous allons faire un court séjour complet en Afrique maintenant, comme chaque semaine à cette heure-ci. Et d'abord, une première escale en Guinée avec la colère des salariés d'un géant minier qui s'appelle Rio Tinto. Ils manifestaient lundi dans plusieurs villes du pays. Ils sont quasiment tous touchés par un plan de licenciement après l'abandon du projet d'exploitation de la mine du Simandou, l'un des plus grands projets miniers en Afrique. Correspondance de Coralie Pierret.
Camarades, salut!
Salut! Salut!
À bas l'injustice!
À bas l'injustice!
À bas la discrimination!
À bas la discrimination!
Merci beaucoup. Casque sur la tête et tenue de sécurité, les salariés de Rio Tinto dénoncent leurs conditions de licenciement. Moriku Suleiman Sidibé travaille à Beila, une ville proche de la mine du Simandou, où se trouve le camp de l'entreprise.
Les 50 travailleurs ont reçu un document sous menace. 10 jours, pas de réflexion, il faut signer, c'est un départ. Ce qui a été proposé, les gens ont pris, ils ont signé, ils ont déposé et ils ont dit bon, nous attendons.
Il n'y a pas eu de négociation.
Le syndicat ne s'est pas mêlé correctement et ça a été interdit aussi de poser la question.
Sur les 884 employés, seule une soixantaine reste et assure le service minimum. Maurice Condé, représentant des salariés.
Nous avons de problèmes sérieux avec les cadres guinéens corrompus qui sont aujourd'hui dans l'entreprise. Par exemple, dans la sélection des personnes devant faire le service minimum, moi qui vous parle, j'ai 16 ans d'expérience avec Rio Tinto. L'honnêteté, l'esprit d'équipe et le respect. Ces valeurs-là n'ont pas été respectées dans ce cadre de sélection des personnes devant assurer le service minimum de Rio Tinto.
Contactée par RFI, la société Rio Tinto n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Le Gabon maintenant et l'investiture du président Ali Bongo mardi. Nouveau mandat donc après des élections contestées mais jugées valides par la Cour constitutionnelle. Reportage à Libreville de Karine Franck.
Excellences, mesdames et messieurs, je vous annonce l'entrée de madame le président de la Cour constitutionnelle accompagnant monsieur Ali Bongo Ondimba.
La main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national, Ali Bongo en tenue d'apparat prête serment.
Je jure de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure.
21 coups de canon ont alors retenti. « Je suis le président de tous les Gabonais », a déclaré Ali Bongo dans son discours.
« Les élections sont terminées. J'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. J'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble. Nous avons tous le devoir de ne point ériger un mur entre nous. »
Le chef de l'État propose une réforme constitutionnelle.
Qu'il s'agisse des élections à deux tours, de la limitation et la durée des mandats électifs, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Œuvrons, comme l'enseignait Saint François d'Assise, à demeurer des instruments de paix afin que là où il y a la haine, nous puissions apporter l'amour et là où il y a la discorde, nous puissions apporter l'harmonie.
Sans doute l'opposition préfère-t-elle la maxime de saint Thomas, « Je ne crois que ce que je vois ».
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous dire depuis quand vous écoutez cette émission qui a 20 ans cette saison. Je voudrais d'abord saluer Lynn à Nairobi. Elle a commencé à nous écouter quand RFI a commencé à émettre en français dans la capitale du Kenya. Mais elle ne peut plus aujourd'hui car RFI diffuse en grande partie en anglais, alors elle podcaste l'émission. Un grand merci Lynn pour votre fidélité. Bonjour à Claude qui nous écoute lui depuis 4 ans au Cameroun, à Léonard à Douala depuis 2010, Ulrich à Yaoundé depuis 2011, à Ousmane à Dakar depuis 2011 aussi. Un salut aussi à Samy, fidèle auditeur depuis 1998, à Alpha Oumar depuis 2005 à Conakry et à Gaël, fidèle au rendez-vous à Brazzaville depuis 2007.
Sept jours en Afrique.
Je salue aussi, les courriels arrivent, ils sont nombreux. Jean Lévy qui nous écoute lui depuis 2013, donc depuis 3 ans. Et je salue également Fadel qui est gabonais, qui réside à Port-Gentil et nous écoute depuis 2013. Vous voyez qu'il y a des fidèles auditeurs. Nous recherchons toujours un auditeur ayant écouté l'émission en 1996 lors de ses débuts. Mais je pense qu'on va y arriver. On va reparler des États-Unis, de Donald Trump, Laure Mandeville, avec votre livre qui est vraiment Donald Trump, publié aux éditions des Équateurs. Un livre qui va au-delà du mythe, de la légende qu'a bâti Donald Trump. Pour d'abord savoir pourquoi les Américains sont fascinés par cet homme.
Je pense qu'ils sont fascinés parce qu'il est complètement hors norme, parce qu'il ne se laisse abattre par rien. C'est un personnage qui se tient debout quoi qu'il arrive. Et il y a eu une gigantesque tentative, je l'ai dit déjà précédemment, pour tenter de le mettre à mort politiquement. En fait, je crois qu'il y a d'abord tout le Parti républicain s'est ligué contre lui pour tenter de l'expulser de cette primaire. Il a quand même réussi contre 16 candidats ultra chevronnés, dont une pléiade de gouverneurs plus charismatiques et expérimentés les uns que les autres. Et donc, il en est sorti vainqueur. C'est quand même extraordinaire. Et ça, je pense que c'est une des choses qui fascine les gens. Ce qui les fascine aussi...
Comme vous dites, Laure Mandeville, il a jeté une OPA sur le Parti républicain.
Exactement.
Qui l'a transformé sur le plan des idées, enfin de l'idéologie.
Absolument, il a complètement fait exploser toutes les frontières. C'est un homme qui est toujours là où on ne l'attend pas. Il est sur la gauche dans ce qui est le protectionnisme économique, la remise en cause du credo du libre-échange qui était une des sortes de vaches sacrées de l'époque réganienne. Donc de ce point de vue-là, il est post-réganien et il veut garantir la sécurité sociale, la protection sociale et il veut un plan santé qui protège les plus pauvres.
Il est libéral sur le plan des mœurs aussi.
Il est assez libéral sur le plan des mœurs puisque, bon, il a soutenu l'idée qu'il fallait pas d'avortement mais du bout des lèvres. il défend les gays. Donc il est new-yorkais, faut pas l'oublier.
Oui.
Donc
il porte
des valeurs new-yorkaises. En même temps, il est absolument à droite et il a vraiment fait une OPA sur tout cet électorat républicain qui veut absolument que le pays soit beaucoup plus ferme sur la question de l'immigration illégale. Et c'est vraiment le cœur, je dirais, de son message. Et le fait que les Américains l'aient acclamé comme ça dès le début de la primaire, c'est parce que le 16 juin 2015, quand il fait son fameux discours, il annonce qu'il fera tout pour garantir les frontières des États-Unis. Et il dit, un pays qui ne défend pas ses frontières n'est pas un pays.
Discours de candidature donc le 16 juin 2015, dans un pays d'immigration pourtant.
Dans un pays d'immigration. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas nécessairement voir là, je crois qu'en fait tout le monde a vu ça comme le fait qu'il était nécessairement anti-immigration et que donc tous les gens qu'il soutenait étaient nécessairement suspects de racisme. Mais cela indigne beaucoup des gens qu'il soutiennent. Ils disent, nous ne sommes pas racistes, nous sommes contre l'immigration illégale. Et depuis quand cette idée en fait que l'immigration illégale doit être absolument soutenue, ça date des années 80-90, mais avant il fallait faire une demande pour venir aux États-Unis. Et donc ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est qu'il y ait un respect des lois. Et Trump, de ce point de vue-là, est soutenu par beaucoup, beaucoup de gens.
Son projet d'ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique, payé par le Mexique,
oui,
n'aura pas de suite.
Ça, bon courage, mais en même temps, c'est évidemment symbolique. C'est le symbole du mur, c'est-à-dire c'est l'idée, il y a un moment où il faut se protéger. Il a une autre phrase que j'ai trouvée très forte dans le livre qu'il écrit, là, l'Amérique abîmée, qu'il a sorti juste avant l'élection. Il dit, nous sommes le seul pays qui s'occupe plus du destin de nations éloignées que de nos propres problèmes. Ceux qui défendent un tel principe sont des imbéciles. Il y a un nom pour des gens qui défendent ce type de principe, des imbéciles. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment sacrilège par rapport au discours libéral de l'élite américaine, mais pour le peuple américain, c'est totalement acceptable.
C'est une vieille école, la vieille école de l'isolationnisme qui fait partie de l'histoire aussi des États-Unis. Il est contre en quelque sorte le politiquement correct, contre ce que vous
Exactement.
Appelez même aussi le communautarisme. Vous
Exactement.
Dites qu'il est contre aussi.
Absolument. Je crois que Trump, une des raisons pour lesquelles il fait si fort aussi, c'est que il remet finalement d'une manière, moi, que j'appelle presque un peu française, il met en œuvre une sorte de remise en cause du communautarisme en disant on ne nous parle finalement que de valeurs universelles ou de nos appartenances minoritaires et catégorielles, c'est-à-dire que les gens sont définis par la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, le fait qu'ils sont un homme, une femme, mais est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de diviser notre nation en toutes ces différentes parties et de plutôt revenir au fait que nous sommes tous des Américains. Et ce qu'il dit, c'est « je veux remettre à l'ordre du jour l'américanisme ».
Mais sur le fond, c'est un personnage, enfin sur la forme plutôt, c'est un personnage insupportable. Non, vous écrivez « l'un des traits les plus frappants de la campagne de Donald Trump est la manière obsessionnelle dont il ne cesse de parler de lui-même et de vanter tout ce qu'il fait.
Oui,
il est le meilleur en tout, il sait tout ».
Ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a d'un côté ce qu'il dit, et je pense qu'il dit certaines vérités, tel un candide. Alors, c'est un candide brutal et mal élevé, hein, assez grossier, mais il dit certaines vérités qui sont bonnes à dire. Et de l'autre côté, il est effectivement un personnage, certains Américains disent, humain trop humain, c'est-à-dire avec d'énormes failles, une personnalité parfois totalement exaspérante, un égo surhumain. Et quelqu'un,
chez lui, ça se voit.
Et ça se voit. Et quelqu'un me disait, Trump, pourquoi Trump a voulu devenir président des États-Unis ? Mais c'est parce que finalement, chez lui, il y a cette idée qu'il faut toujours prouver plus de choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de toujours plus. Et la citation exacte, c'était s'il y avait un poste d'empereur du monde, Donald Trump ferait immédiatement candidature.
Mais sur le fond, est-il sincère sur le fond ? Est-ce que c'est une comédie ou est-il sincère ?
Écoutez, ça c'est une vraie question et franchement, je n'ai pas exactement la réponse. C'est-à-dire que moi, je pense que le personnage, personnellement, moi, j'aurais tendance à penser qu'il est sincère, mais cela ne veut pas dire qu'il ne joue pas une gigantesque comédie en même temps. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un personnage qui profite d'une manière professionnelle de ses fameux talents de com. Il sait que la politique est un cirque, que c'est un gigantesque show.
Surtout
il en profite, surtout aux États-Unis, et il en profite sur Twitter, sur tous les plateaux télé. Il joue le jeu du pain et des jeux. Et en même temps, je pense qu'il y a certainement chez lui une authenticité du message, parce qu'il n'aurait pas touché les gens s'il n'était pas totalement authentique. Je pense qu'il est véritablement inquiet de ce qu'il appelle le déclin de son pays. C'est un nationaliste, il faut le dire. C'est un nationaliste. Et donc, il veut rétablir la grandeur de son pays. Voilà. Je pense que c'est, malgré tout, il y a une part de vérité là-dedans.
Merci Laure Mandeville, il faut lire votre livre, je le recommande, parce que ça nous intéresse aussi en quelque sorte, nous Européens et nous Français. Qui est vraiment Donald Trump? Il est publié ce livre aux éditions des Équateurs. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Ravensky. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée. Cette fois, nous parlerons d'André Gorz, un journaliste et philosophe mort en 2007 qui a pensé très tôt l'écologie politique et dont la réflexion sur le travail est encore très actuelle. Idée de demain, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Le festival